Chers amis, bonjour. Merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. Nous sommes prêts pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Merci à tous. Chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'un thème cosmique qui apparemment n'aura rien à voir avec nous. Mais comme l'a dit le grand maître Hermès Trismégiste, comme ci-dessus, donc ci-dessous. Si l'on commence à comprendre les mystères de l'univers, on peut comprendre aussi les mystères de l'être humain, et comme l'a dit aussi le temple de Delphes. Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Cela signifie que l'univers est une relation étroite avec l'être humain, bien sûr que oui. On appelle macrocosme l'univers, et microcosme, c'est ainsi qu'on appelle les petits univers qui est dans l'être humain. Donc, l'univers a des mondes infinis, des soleils, des comètes, beaucoup de choses intéressantes, et cet univers dans lequel nous vivons, nous bougeons et avons notre être est composé de galaxies. Les galaxies sont un ensemble d'étoiles très nombreuses qui tournent autour d'un centre gravitationnel qui est un énorme soleil, un soleil gigantesque qui est le soleil central de tout l'univers. Si on se souvient des paroles d'Albert Einstein quand il nous dit que l'univers avait une limite et était courbé, Albert Einstein s'est vraiment tenu à ce qu'est la réalité de l'univers. Il a une limite. Il est courbé et il a un centre gravitationnel. Ce centre gravitationnel est un énorme soleil appelé le soleil central. Autour de ce soleil central, toutes les galaxies de l'univers tournent. Il y a beaucoup de galaxies dans l'univers, et ces galaxies sont soumises à la loi du Triamasicano, c'est-à-dire la loi des trois. Les trois forces positives, négatives et neutres s'exprimant en force centrifuge, centripète et neutre, composent toute la galaxie. Le soleil central s'appelle ésotériquement Sulu Sigi Sig. Autour de lui, de nombreuses galaxies voyagent, tournent, environ 104 millions de soleils, et parmi ces galaxies se trouve la nôtre. Nous voilà dans un minuscule grain de sable sur la remplage de ce qu'est notre galaxie. Cette galaxie dans laquelle nous vivons s'appelle bien sûr la Voie lactée, et il a de nombreuses galaxies voisines de la nôtre, par exemple la galaxie d'Andromède, et les petites nuages de Marijan et les grands nuages de Marijan et d'autres. Eh bien, l'un d'entre eux est notre Voie lactée. Mais notez qu'encore avant d'atteindre notre système solaire, il y a encore une unité cosmique dans cet ordre de monde, les constellations. Les constellations sont ces groupes d'étoiles qui vont toujours ensemble pour une raison quelconque. Qu'est-ce qui les maintient ensemble? Eh bien, un centre gravitationnel aussi, c'est-à-dire une étoile, un soleil, plus grand que ceux qui composent cette constellation. Il y a la grande constellation des Béliers, celle du Taureau, celle des Gémeaux. Les 12 signes zodiacaux proviennent des 12 constellations qui ont influence sur notre système solaire et aussi sur notre psychologie. La constellation dans laquelle nous vivons s'appelle les Pléiades. Oui. Nous appartenons à la constellation, nous sommes des habitants de la constellation de Pléiade. Il est très intéressant de voir comment, depuis longtemps, la constellation de Pléiade, qui est apparemment plus petite que d'autres, mais pourquoi nos ancêtres, Mayas, Aztèques, les Hébreux, les Syriens, les Babyloniens, les Babyloniens et bien d'autres peuples ont toujours considéré les Pléiades si importantes? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les Pléiades sont la constellation qui nous correspond. La constellation ou amas des Pléiades est un ensemble de sept soleils, et le septième est le nôtre. C'est-à-dire qu'en tant que système solaire, nous tournons autour du soleil central des Pléiades, qui s'appelle Alcyone. Vous voyez comment les mondes sont constitués, comment l'univers est constitué et formé. L'univers est composé de galaxies. Les galaxies des constellations. Et les constellations ont leur propre système solaire. Le dernier soleil la tournèrent autour d'Alcyone, qui est le soleil central des Pléiades, est notre soleil Ors. Et notre soleil Ors est le centre de gravité de notre système solaire. Vous dites que le système solaire est comme une famille composée de ses membres, qui seraient les planètes. C'est notre système solaire. Pendant longtemps, pendant des décennies, dans l'Arénos, il était déclaré qu'il n'y avait pas que 9 planètes. Il s'avère qu'il y a 3 autres planètes, qui s'appellent dans l'Arénos, Vulcan, Perséphone et Clarion. Maintenant, les scientifiques ont découvert 3 planètes après Pluton. Ils leur ont donné leur nom. Et il y avait une 14e planète entre Mars et Jupiter. Maintenant, dans cette ceinture d'astéroïdes qui tourne entre Mars et Jupiter, ils ont découvert un très gros astéroïde qui a été classé comme une planète naine. Ils viennent reconstituer ce que l'ésotérisme a affirmé il y a des milliards d'années, qu'il y a 14 planètes. Nous comptons également le Soleil comme une planète ou comme une unité cosmique. C'est ce qui compose notre famille, qui s'appelle notre système solaire. Là, dans cette famille, nous vivons. Le mot grec cosmos signifie littéralement ordre, car il y a un ordre dans l'univers. Les planètes tournent sous des orbites précédemment calculées mathématiquement. Les systèmes solaires ont des soleils qui tournent autour de leur constellation, et cette constellation tourne autour du soleil central Sirius de notre galaxie. Alors, voici l'intelligence. Nous ne pouvons pas le nier. S'il n'y avait pas d'intelligence sur les planètes, elle entrerait en collision de manière désordonnée, de tous côtés, car il n'y aura pas d'ordre. Le choc même des mondes qui vient à exister est mathématiquement prévu ou calculé, parce que ils se réunissent avec la force de l'amour pour former une nouvelle masse planétaire pour devenir un, une planète qui devient un par la force de l'amour. Donc, tout est préalablement calculé par ces intelligences supérieures. Il y a des intelligences supérieures provenant de l'univers entier. Nous pouvons les appeler des anges ou maîtres, ou des êtres de lumière ou des dieux, comme les Aztèques ou les Mayas les appelaient. Ces intelligences supérieures sont celles qui organisent l'univers entier. Mais concentrons-nous sur notre système solaire. Et évidemment, ce système solaire, avec ces planètes qui existent entre elles, c'est la Terre. Ici, nous vivons. Ici, nous avons notre être, dans ce monde merveilleux. Mais cette Terre a ses régences. Ne pense pas que c'est une masse planétaire qui est dans l'espace, voyageant sans ordre, mais non. Il y a un génie planétaire. Il y a un dirigeant ou un ange. Un maître qui les gouverne. Ce maître a été cité de nombreuses traditions dans le monde. Dans la Bible, nous les lisons comme Melchisedec. Melchisedec est le génie de la Terre, le dirigeant qui gouverne notre planète Terre, notre monde, c'est-à-dire le reine Melchisedec, le génie du monde, de notre Terre. Il vit normalement au centre de la Terre, car le centre de la Terre et la centrale de la Terre physique n'est pas de magma, comme certains le pensent encore. C'est déjà une façon de penser médiévale, car les scientifiques ont maintenant mis au point de nouvelles théories selon lesquelles la Terre est grosse, que le centre n'est pas une chambre magnétique, comme on le pensait. Alors, d'où vient le magma des volcans? Eh bien, nos scientifiques affirment qu'il existe des chambres magnétiques à l'intérieur de la Terre, mais pas correctement au centre. En tout cas, il s'avère que maintenant, il vit dans la 4e dimension de la Terre, dans le centre de notre Terre, mais dans la 4e dimension, le maître Melchizedek. Si un jour, vous sortez dans le corps astral consciemment et vous voulez aller à quelque autre part de l'espace, par exemple, à la planète Vénus, vous devez demander au maître Melchizedek la permission de quitter la planète Terre. Et vous devez demander au souverain de Vénus la permission d'entrer sur sa planète. C'est ainsi que les choses sont faites, comment elles doivent être faites. Bien sûr, cela nécessite une certaine permission. Vous devez aller dans l'ordre. Vous prierez dans un autre monde alors, ses maîtres sont ceux qui les gouvernent. Et donc, nous devons demander leur autorisation quand on veut aller dans une autre planète ou monde, comme les dirigeants de la Terre, les maîtres Melchizedek. Bien. Et la Lune est aussi une unité cosmique, très intéressante, car c'est le satellite de la Terre. La Lune était une planète ancienne. En fait, l'âme de la Lune est réincarnée sur la Terre. Chaque planète a aussi son principe d'âme, son âme. Et l'âme qui était sur la Lune il y a des millions d'années est réincarnée sur une autre planète qui est la Terre. Et maintenant, la Lune, comme une mère, in the wheel suit sa fille, la Terre dans l'espace infini. Dans la Lune avait la vie. Elle avait des mers, elle avait des océans, elle avait ses sept races humaines que chaque monde doit produire ou créer. Maintenant, elle est morte. Mais la Lune influence beaucoup de choses sur nous et elle a aussi un principe intelligent, même si c'était une unité cosmique qui était une planète déjà morte, car elle continuait de nous gouverner, d'avoir influence sur nous. Elle continuait de tourner autour de la Terre. Il y a encore des calculs mathématiques et elle est donc également gouvernée par un maître. Ce maître qui gouverne la Lune est le maître Gabriel, le célèbre ange biblique Gabriel. Cet ange Gabriel est le souverain de la Lune et cet ange précieux est en charge des naissances, car la Lune régit les naissances. C'est pourquoi c'est lui et pas un autre ange qui est allé mentionner la Vierge Marie de l'Annonciation, que le Maître Jésus-Christ venait. C'est l'Annonciation. C'était l'ange Gabriel et pas un autre, car c'est lui qui correspond ou qui a de l'influence sur les naissances de toutes les créatures dans le monde. La Lune régit les naissances de toutes les espèces et son influence est définitive pour nos entreprises et nos activités humaines. C'est pourquoi c'est pratique que dans un croissant de lune, les activités soient lancées, car dans un croissant, toute tendance dans la nature a tendance à pousser. C'est pourquoi les anciens agriculteurs semaient un déclin ou la lune décroissant et récoltaient un croissant de lune, quand la sève a tendance à être dans les troncs. Ce système permettait aux bois de durer longtemps. Une lune décroissante, toute a tendance à baisser, à échouer dans les affaires. Mais dans les plantes, la sève doit aller vers les racines et les forces de la nature se concentrent dans les graines. Nous devrions démarrer des affaires en croissant de lune. À la pleine lune et de la lune maximale. C'est très bon pour les pratiques spéciales de méditation, de prière, car c'est dans sa plénitude, en décroissant, il n'est pas pratique de démarrer une entreprise, car tout doit descendre. Il y a moins force dans la nature. C'est pourquoi les agriculteurs ont planté pendant l'étape de la lune décroissante, car tout était concentré dans les racines et dans les graines. Mais les affaires ne sont pas pratiques et dans la lune, dans la nouvelle lune, tout ce que nous faisons a tendance à échouer. C'est une tendance, c'est une influence que nous pouvons parfaitement transcender, mais dont nous pouvons aussi profiter si nous pouvons programmer nos activités spéciales. Pas chaque détail de notre vie, mais nos activités spéciales. Car normalement, nous pouvons le programmer en croissant de lune, quand cela va être une affaire. Une pratique particulière, spéciale, méditation, quelque chose que nous avons préparé à la lune, à la pleine lune. Ce sera le meilleur moment. Eh bien, là, nous avons l'influence de la lune. Nous connaissons déjà un peu la famille de notre système solaire. Eh bien, l'influence lunaire est l'imagination, l'automatisme, le subconscient, reproduction des espèces, voyage, art manuel, art pratique, affaire en rapport avec des produits liquides, etc. Eh bien, nous avons, chers amis, comme une connaissance très utile, les jours de la semaine. Nous avons les jours de la semaine selon l'ordre authentique des planètes dans l'ésotérisme. Et nous avons dans cette table Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne dans la partie centrale de cette table. Dans la partie gauche, nous avons les jours qui correspondent à chaque planète. Ce sera l'ordre authentique. Nous débuterons comme un cerf en place de dimanche par le lundi. Après, et le lundi est lié à la Lune. Après vient la planète Mercure et le jour mercredi. Après vient la planète Vénus, liée bien sûr à le jour vendredi. Après vient le Soleil, lié au dimanche. Encore vient Mars, lié au mardi. Après Jupiter, lié au jour jeudi. Et finalement, les seuls jours corrects de notre système, de notre calendrier. Saturne, la planète Saturne, liée au samedi. D'accord? Et dans la partie 3, nous avons les ordres actuels des jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais nous insistons que l'influence de cette planète correspond à l'ordre ésotérique, l'ordre authentique des jours, qui devrait être, je le répète, à la place de dimanche, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, mardi, jeudi et samedi. D'accord? Bien. La planète Mercure, c'est la planète suivante. La planète Mercure, la rapide Mercure, rappelons-nous que dans la mythologie, il est mis avec quelques îles ou pierres, les fameux caduceus de Mercure qui sont mis sur le médecin. Nos ancêtres n'avaient pas si tort, car la planète Mercure est gouvernée par le maître Raphaël. Et le maître Raphaël, avec l'influence de Mercure, régit la médecine, régit les guérisons, gouverne l'esprit, régit le journalisme, les plaidoyers. Toutes les choses sont liées sous maître Raphaël, à l'intellectualisme, au planète Mercure. Le maître Raphaël peut guérir nos maladies si nous l'appelons, si nous l'invoquons, de préférence en mercredi réel. Un mercredi réel. D'accord? Un mercredi réel, car les jours sont changés. Le samedi est le seul jour qui n'a pas changé. Nous recommandons que lorsqu'une personne est malade, et chaque jour, il s'assoit devant une table, met un verre d'eau à boire, et un verre d'eau pur, et détendre son corps et son esprit pendant une demi-heure. Et appelle le maître Raphaël pour qu'il dépose les médicaments ésotériques dans l'eau, a besoin dans la verre. Et ensuite, à la fin, après la pratique, après la concentration et les prières, nous boivons cette eau avec une grande foi. Le maître Raphaël, l'authentique mercredi lié aux planètes, à la planète Mercure, et ces jours-là, est le meilleur jour pour appeler le maître Raphaël pour demander l'aide à guérison. Il peut nous guérir de n'importe quelle maladie, mais surtout des maladies mentales. C'est un spécialiste des maladies mentales, le maître Raphaël. Faites cela tous les jours jusqu'à ce que vous soyez guéri, pas une fois, et une demi-heure, vous concentrer sur ce verre, en appelant, en invoquant le maître Raphaël avec une grande foi. Nous pouvons le faire. Eh bien, le planète Mercure régit les raisons et rationalisme, process judiciaire, affaires civiles, la loi, la science, tout ce qui doit avoir avec l'intellect, la science médicale, les guérisons. La planète suivante est Vénus. Vénus est la planète de l'amour, de la beauté, de l'art, La planète de la famille, de la cure. Toutes celles qui touchent la mort seraient liées à la planète Vénus. La planète Vénus est gouvernée par l'archange Uriel ou Anaël. Ce sont deux noms pour le même ange, l'ange Uriel ou Anaël. Elle est dirigeante de la planète Vénus et ses maîtres régissent toutes les choses liées à la mort. Vénus régit l'imagination créative, l'imagination artistique, le drame, les comédies, les tragédies, l'art scénique, le théâtre, affaires affectueuses, problèmes conjugaux, questions de finances, et ce qu'il doit avoir avec la maison et avec les fils, etc. Le Soleil, la planète suivante, le Soleil est le centre gravitationnel de notre système solaire, et nous recevons une énorme influence du Soleil. Et nous considérons donc réellement le Soleil comme une boule de foie. Et certains physiciens, astronomes, qui se mettent soudain à penser, malgré tellement de technologies que nous avons, car il y a quelque chose qui ne peut pas être expliqué, comme l'énorme influence que nous avons lorsque nous brûlons avec le soleil, cela ne ressemble pas au four, mais ressemble plutôt à un type de rayonnement. C'est ce que certains astrophysiciens ont dit, et leur opinion est très intéressante, car quelques scientifiques donnent réellement à ce sujet. Ces astrophysiciens se demandent aussi pourquoi, comment, par exemple, au milieu de la journée, commence à gravir une montagne, l'Everest par exemple, à 2 heures de midi, car plus on monte, plus il fait froid. C'était un bol de feu. Si c'était un bol de feu, ne devrait-il pas être plus chaud si nous allons plus tôt dans une montagne ou dans un ballon sonde, si l'on rampait et sautait vers les hauteurs plus proches du soleil et milieu de la journée? Pourquoi se mettait-on à mourir de froid? Car quand on sort dans l'espace, on enregistre des températures des 120 degrés, dessous de 0, qu'il ne devrait pas y avoir plus de chaleur à mesure qu'on se rapproche du Soleil. Les scientifiques affirment également que c'est un ensemble d'hélium et à l'état incandescent. Mais si c'était de l'hélium, et de l'hélium est un gaz, nous savons, il n'y aurait pas cette force de gravité pour maintenir toute la planète en orbite. Alors, tout ça, on demande certains scientifiques, ils sont juste disqualifiés, car la comité scientifique, par la comité scientifique, parce qu'ils ne pensent pas comme ils. C'est-à-dire les comités, les pensées, mais certains ont osé lancer des opinions de cette nature, que le soleil n'est pas une boule de feu dans l'arnose. La vérité est que depuis de nombreuses années, nous affirmons que c'est une planète vivante, que le soleil n'est pas une boule de feu seulement. Alors, d'où vient ce rayonnement? Le rayonnement vient des mines à l'intérieur de la planète Soleil. Il y a du radium, du plutonium et de nombreux minéraux à l'intérieur. Et cet ensemble de vibrations qu'il lance, car il est si gigantesque, dont ces radiations de ces minéraux sont énormes. Rappelez-vous que si l'on ajoute toutes les masses des planètes de notre système solaire, y compris Jupiter, qui est énorme, si nous ajoutons toutes les masses, occuperait seulement les 1% de la masse totale du Soleil. Les planètes voyagent à travers un espace infini et les atmosphères transformées, ces rayonnements du Soleil qui traversent l'espace infini, en lumière, chaleur, couleur et même son. Donc, le soleil est merveilleux, en fait, une splendide humanité vit ici au soleil. Elle ne peut pas échouer comme sur Terre. Au soleil, il y a seulement des initiés, seulement des maîtres, des hommes et des femmes. La vie, c'est le soleil. C'est donc très différent de notre planète Terre. Il est gouverné, le soleil est gouverné, par Michaël, le célèbre archange biblique Michaël, et le maître du soleil. Eh bien, le soleil régit la santé, la vie, la fertilité, al dignataire du gouvernement, chef d'entreprise, roi et messieurs commandes, etc. Même Rudolf Steiner, avait tort sur le soleil. Ce grand initié a dit que si quelqu'un allait dans un vaisseau cosmique vers le soleil, il ne trouvera rien physiquement, parce qu'il était un groupe d'enseignantes, de maîtresses, soutenant tout le système solaire. En réalité, Rudolf Steiner avait une part de raison et une part de non-raison. Ce qu'il avait raison, c'est qu'il y a des maîtres spirituels gouvernant l'univers et que ces maîtres sont concentrés précisément dans le soleil. Il y a les sept champs, les sept maîtres guidés du système solaire. Ils sont là, au soleil. Si on voyageait un jour dans le corps astral vers le soleil, on devrait demander la permission de Melchizedek dans la Terre pour sortir de la Terre. Et on devrait demander la permission de Michaël pour entrer dans le soleil. Mais on devrait avoir beaucoup de mérite dans son corps pour qu'il nous permette d'entrer dans la planète soleil pour la visiter. Nous pourrions aller au centre. Là, il y a un abîme. Il y a des portes. Il y a des gardiens qui qualifient l'aspirante et qui lui permet d'entrer. Mais seulement s'il y a des mérites suffisants dans son cœur et là, au centre, les grands maîtres officient dans des cérémonies sacrées pour soutenir tous les systèmes solaires. Mais c'est la partie spirituelle, ce que Rudolf Steiner a dit. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de soleil physique. Non, vraiment, ici, ces grands maîtres avaient tort. En fait, le soleil physique, bien sûr qu'il existe, mais ce n'est pas une boule de feu. Une boule de feu, c'est une planète gigantesque, il le répète. Il a bien sûr son atmosphère, même comme la Terre. Et cette atmosphère du soleil transforme aussi l'énergie des autres planètes qu'il reçoit. Le soleil envoie son énergie aux planètes, d'accord? Le soleil envoie son énergie aux planètes. Chaque planète reçoit cette énergie et chaque planète lui donne un choc, un changement. Et cette énergie est renvoyée au soleil pour maintenance. C'est-à-dire, le soleil maintient les planètes et les planètes transforment son énergie et les planètes maintiennent le soleil. Cela s'appelle, chers amis, la loi de l'alimentation réciproque, d'accord? L'alimentation réciproque. Ou la loi du trogo auto-égocratique cosmique commun. Il n'est pas nécessaire d'apprendre ce nom si long. En connaissant la loi de l'alimentation réciproque, nous faisons déjà référence à cette loi qui régit les mondes, qui sont maintenus entre eux, en raison des émanations électromagnétiques qu'il utilise, puis libéré. Pour l'économie, dans l'univers lui-même. Donc, le soleil a son atmosphère, d'accord? Il a vraiment des endroits où l'on pourrait mourir de froid. Il y a son pôle nord et bien sûr son pôle sud. Donc, il y a des endroits où l'on peut mourir de froid, comme le pôle nord ou le pôle sud, recouvert de glace dans le soleil, comme ceux de la planète Terre. Cela va bien nous étonner. Peut-être que certains d'entre nous verront cela comme une histoire, comme une fantaisie, si vous voulez. Prenez-les comme ça. Mais en réalité, nous osons dire que c'est une grande planète. Alors, ne soyez pas surpris. Et certains scientifiques affirment déjà que le soleil n'est pas une boule de feu, bien sûr. Ils donc, comme théorie, à cause de leur réflexion, à cause de leur étude. Mais nous disons que si l'on sortait vraiment dans le corps astral et se dirigeait vers le Soleil, on trouverait une belle planète. Une planète extraordinaire, gigantesque, mais extraordinaire aussi. Avec ses pôles nord et ses pôles sud, ses sons de jungle, sa mer et sa vie élémentaire. Le Soleil a ses gigantesques, énormes océans, mers. Si l'on vidait tous les océans de la planète Terre à un océan du Soleil, c'est comme si, ici sur Terre, on versait un verre d'eau dans la mer. Il y a des monstres marins, des antédiluviens, que nous avons rencontrés ici, là, dans la planète. Le Soleil continue à exister. Là, il existe dans les océans, dans les mers du Soleil. Il y a une riche vie minérale, végétale, animale et bien sûr une vie humaine. Mais les humains qui vivent au Soleil sont des gens très préparés. Nous sommes spirituellement très loin. Très très loin de ces initiés qui vivent au Soleil. Des créatures innocentes de la nature habitent le Soleil, comme ici sur Terre. Ne pense pas que vous trouverez des vies. Vous ne les trouverez pas au Soleil, car les vies ne sont que pour les feux, c'est-à-dire pour ceux d'entre nous qui sont déséquilibrés. Cela ne viendra à l'esprit des personnes. Quand ils sont intelligents et éveillés, leur conscience, ils ne penseraient pas à faire des vies. Les maisons couillent entre elles. C'est qu'ils sont si proches et que c'est si artificiel, c'est frôlant. Quelqu'un joue sa musique et agace 7, 8 ou 9 voisins. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas assez de plantes. Il n'y a pas assez de... C'est juste par info, celui de vivre en ville. Les habitants du Soleil vivent à la campagne parce que c'est naturel. Et s'ils ont des petits villages, rien d'autre. Mais ils doivent faire leur étude, se réunir pour étudier les choses de la nature, les dimensions supérieures, parce qu'ils ont leurs facultés éveillées. Ne pense pas qu'ils n'ont que leurs cinq sens. Non, ils ont 12 sens. Et si on va les visiter dans leur corps astral, ils, physiquement, nous voient. D'accord? Nous serons là et il est possible de les visiter en utilisant notre corps astral. Mais, pendant que nous sommes dans notre corps astral là-bas, les habitants du Soleil, étant dans leur corps physique, peuvent nous voir. Ils nous voient et peuvent nous parler comme si rien d'autre. Car ils sont leur clairvoyance, leur clairaudience, leur télépathie, leur intuition, leur mémoire de vie passée, toutes ces que possèdent les habitants du Soleil. Ils sont aussi des télescopes très vieux, mais puissants. Ces télescopes gigantesques qui ont les habitants du Soleil sont appelés Tescoanos. C'est ce qu'ils appellent ces télescopes. À travers eux, ils peuvent atténuer notre planète à la perfection. Non seulement en tant que monde physique, mais ils peuvent voir les villes, les villages, les gens qui vivent dans ces villes, les maisons. Et pas seulement cela. Ils, les habitants du Soleil, peuvent voir notre aura. Vous pouvez voir le triste état dans lequel nous vivons avec ce télescope appelé Tescoanos. Pas pour curiosité, mais pour nous étudier de manière scientifique. Alors, ils nous voient comme un monde conflictuel. Ils ne veulent pas aucune relation avec nous, car ils savent que nous sommes destructeurs à plein. Mais ils nous aiment et essayent de nous aider le plus possible, car même cela, nous n'avons même pas l'humilité de se laisser aider. C'est comme ça que l'humanité est. C'est comme ça que nous sommes tous ici, sur la planète Terre. Au Soleil, nous avons une autre surprise, car les scientifiques ont également beaucoup étudié les fameuses taches solaires. Ces taches solaires ont des cycles Les scientifiques les ont découverts dans l'augmentation des tâches solaires. Tous les 11 ans, ils disent qu'il y a un cycle d'augmentation des tâches solaires, mais le sage russe George Lakowski a découvert la relation intime qu'il existe entre les tâches solaires et les guerres. Il a découvert que plus la production des tâches solaires était élevée, plus il y avait des guerres sur la planète Terre. Donc, cette relation que le sage russe George Lakowski a découvert est très intéressante. Bonjour. Il y a un phénomène, une loi, qui se produit dans notre système solaire, qui a beaucoup à voir avec les tâches solaires, et qui a beaucoup à voir avec le soleil qui s'appelle. Il y a beaucoup à voir avec le soleil. Bonjour pourquoi. Il y a une loi cosmique qui s'appelle le Solionensius. Notre système solaire s'appelle Ors, d'accord? Nous le voyons dans les parties droite haute dans l'image. Bien. Notre système solaire Ors, voyage dans l'univers, possède plusieurs systèmes solaires voisins, d'accord? Eh bien, c'est le cas du Soleil appelé Baleotto. Baleotto, dans la partie gauche, en bas. Eh bien, le Soleil Baleotto a son propre système solaire, système planétaire, à son ensemble de planètes, mais il y a aussi ses visiteurs. Comme nous, qui avons les comètes Halley, qui nous rendent visite tous les 76 ans, car il s'avère que le soleil Baleotto a aussi un visiteur. Et les visiteurs, les comètes qui visitent le système solaire Baleotto, les comètes s'appellent Solni. Mais beaucoup plus grandes que les comètes Halley, qui visitent notre système solaire. De telle sorte que lorsque la comète Solni s'approche de Baleotto, alors le soleil Baleotto, qui a son orbite et ses planètes en rotation aussi, c'est un système solaire, tout cela, à travers un calcul mathématique, toutes les orbites des planètes est très bien calculé, d'accord? Par leur intelligence supérieure. Nous avons les maîtresses qui régissent chaque planète, eh bien, et chaque planète du système solaire Baleotto a aussi ses intelligences. D'accord? Bien. Mais si un visiteur non programmé arrive, ça n'est pas calculé, ne passe pas tous les jours, d'accord? C'est une situation extraordinaire. Et c'est là l'origine du changement dans ce système solaire Baleotto. Cette comète Solni est si grande qu'elle oblige le soleil Baleotto et ses planètes à augmenter leur tension électromagnétique, leur force de gravité. Ils doivent augmenter leur force électromagnétique pour ne pas sortir de leur schéma habituel, de leur orbite. Puis, il y a une tension électromagnétique non seulement dans le système solaire de Baleotto, mais il la projette sur son ensemble de planètes et il se déplace dans son environnement et atteint notre système solaire Ors. Alors, notre système solaire Ors, recevant cette énergie augmentée, le système solaire Ors doit également augmenter sa force. Alors, notre système solaire doit s'éteindre électromagnétiquement. Voici un choc de contraintes électromagnétiques entre les forces du soleil Baleotto qui arrive et les forces du soleil Ors. C'est comme quand quelqu'un marche dans un endroit très mince, une clôture par exemple, et que quelqu'un arrive et le pousse, en quelque sorte un peu, alors il doit se crisper pour ne pas sortir de son chemin, n'est-ce pas? Bien. Les chocs électromagnétiques de force produisent les tâches sur le soleil, sur notre soleil, je la répète. Les chocs électromagnétiques de force produisent les tâches sur notre soleil Ors, car le soleil comme nous l'avons dit, n'est pas une boule de feu. Il a son champ électromagnétique, ses forces électromagnétiques, il a son énorme énergie et il envoie à toutes les planètes comme nous l'avons dit. Alors, les changements et les tâches dans la corolle de notre Soleil, ors, ainsi étudié, ce sont les forces électromagnétiques augmentées en réponse à celles du Soleil Valeo. Ainsi, chaque force qui l'approche de la comète Solni à le système solaire de Valeo se produit, notre système, notre Soleil ors, augmente son énergie pour rester en dehors de son chemin. Et cette tension électromagnétique s'appelle le solionensius. C'est-à-dire qu'elle augmente la quantité de vibrations que le Soleil envoie à ses planètes. L'énergie du Soleil est spirituelle. Elle est révolutionnaire dans le bon sens. De la révolution de la conscience. De la révolution contre nos propres défauts psychologiques. Mais quand une humanité n'est pas préparée comme la nôtre, et recevant plus d'énergie du soleil que l'habitude, que l'habitué, elle aspire alors à se révolutionner du gouvernement physique. Bonjour. Si l'un de nous reçoit un solionensius en ce moment, cela les aidera-t-il et pourquoi? Parce que vous sentez déjà la besoin d'éliminer l'ego. Vous sentez déjà la besoin d'aider les gens. Vous sentez déjà la besoin de se corriger psychologiquement. Donc, maintenant, si un solionensius cosmique arrive, nous serions très préparés car cela augmenterait toutes nos inspirations déjà naturelles, spirituelles. Et si nous les canalisons correctement, nous aurions une énorme impulsion pour notre développement spirituel, pour notre révolution, oui, mais spirituelle. Mais les gens qui ne sont pas préparés, les gens qui n'ont pas de désir spirituel, cette énergie les attend, et que vont-ils ressentir? Besoin de ces révolutionnaires, oui, d'accord. Mais contre qui? Ils ne savent pas que l'ennemi est à l'intérieur. C'est lui qui cause tous les maux, alors qu'il blâme tant toujours au gouvernement ou à nos pères. Ah, le gouvernement, oui, c'est bien que dans certains endroits, le gouvernement ne fonctionne pas. Mais ils ne font que changer sa rivière et collecter. Et à chaque fois, ils collectent plus et le travail n'est pas bon. Eh bien, nous avons, mais autre chose est ce que les blâmons pour tout. Le gouvernement, tout le gouvernement. Imaginez qu'un solionensius vient et ressent ce désir de révolution interne. Imaginez si nous sommes des travailleurs et gagnons très peu. Pour plus de 8 heures fatigués de travail quotidien, et aussi que des impôts exagérés et plus d'impôts qui n'ont aucune raison d'être. Il y a des taxes justes que vous devez payer parce que vous devez contribuer au gouvernement, n'est-ce pas? Mais il y a des taxes injustes, barbares. Et puis, avec un solionensius, qui vient payer la vaisselle cassée? Le gouvernement. Le gouvernement. C'est comment notre psychologie et nous réagissons à ces influences extérieures. Deux solionensius sont enregistrés dans l'histoire du pays ensoleillé de Khem, dans l'Égypte ancienne. À une occasion où est arrivé un solionensius, le peuple était fatigué de la classe dirigeante dans l'ancienne Égypte, comme beaucoup de peuples dans le monde en ce moment, également fatigués. La même chose s'est produite dans l'Égypte ancienne. Et un solionensius est arrivé, car il y a eu une horrible révolution. Celui qui a rassemblé le plus de jeux de la classe dirigeante, dans un certain vaisseau qu'il qualifiait de sacré, allait être le nouveau dirigeant. Imaginez la révolte qui était armée. À la deuxième occasion aussi, fatigué de la classe dirigeante, les Solonensius arrivent. Ils ne savent pas que de qui ils veulent se libérer, c'est l'ego. Ils ont tué toute la classe dirigeante. Ils n'ont même pas respecté les enfants. Personne. L'ego des gouvernants était attaché à un câble métallique hideux et traîné par des bêtes dans le Nil. Ce sont des choses horribles qui arrivent parce que nous ne savons pas comment canaliser ces énergies cosmiques comme celles d'un Solonensius. L'énergie révolutionnaire. D'accord, mais contre qui? Quand reviendra-t-elle? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que nous devons être préparés psychologiquement, intérieurement, spiritualement, à partir de maintenant. Car si cela nous surprend sans être préparés, ils ressembleront à des guerres de tous côtés. Rappelez-vous que nous sommes dans un nouveau cycle de tâches solaires et vous pouvez observer aussi que nous avons des conflits et des manifestations partout. C'est intéressant à observer. Les guerres n'apportent jamais rien de bon. Les riches s'enrichissent. Et les pauvres s'appauvrissent. C'est ce qui arrive avec les guerres. C'est donc nous avons besoin de mieux. C'est des révolutionnaires, notre conscience, et lorsque cette énergie arrive, elle nous favorise. La planète qui suit dans cette famille du système solaire, c'est bien sûr Mars. Mars, la force, la guerre, le combat. Comme nous l'avons dit, il y a de la vie sur Mars. Et maintenant, les scientifiques ont déjà trouvé de l'eau. Ils n'ont pas encore découvert la vie humaine, mais ça existe vraiment, physiquement, là-bas, dans Mars. Bien sûr, les habitants de Mars font tout leur possible pour ne pas être découverts. Ils ont des technologies très avancées. Maintenant, nous avons des caméras microscopiques. Regardez combien d'entre nous avons développé cette technologie. Il y a des caméras de la taille d'un tête de pingue. Eh bien, imaginons ce que nous aurions dans 1 million d'années. Eh bien, c'est plus ou moins ce que les Martiens ont en technologie. Pas en temps, mais en technologie. Ils sont très 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 avancés. Ainsi, ils peuvent parfaitement voir tout ce que nous voyons dans nos ordinateurs, dans nos télescopes, dans tout ce qu'ils veulent. Eh bien, bien sûr, ils essayent d'éviter l'humain, parce que c'est super conflictuel. Mais en tout cas, de l'eau y était déjà découvert sur la planète Mars. Chaque entreprise, chaque entreprise travaille par la force martienne et les dirigeants. Et la planète Mars s'appelle Samael. Son nom signifie justice. Et la fin, elle, la particule elle, signifie Dieu. Alors, Samael signifie justice de Dieu. Est-ce comme ce nom se traduit, un nom hébreu. Les anciennes traditions qui l'ont toujours considéré comme un génie, au même titre que Michaël, Raphaël, Uriel, et tous ceux qui, sur lesquels nous avons commenté. C'est le souverain de la planète Mars. Et Mars agite la volonté, les commandes, armées, guerre, chirurgie, force de force. Car qu'est-ce qui implique des luttes, etc. L'influence de la planète Jupiter, qui est généreux, il est paternel. C'est lui qui donne le sceptre de pouvoir aux dirigeants, pour le karma ou pour le dharma. Nos dirigeants sont pour ce que nous méritons. Si nous voulons changer le gouvernement, nous devons changer l'individu. Si l'individu ne change pas, le gouvernement ne change pas. Il peut y avoir une révolution. Nous renversons le gouvernement et puis la nouvelle classe dirigeante non s'aggrave. Parce que si le peuple ne change pas, le gouvernement ne changera pas. Le gouvernement est l'extension de l'individu et Jupiter met les sceptres du pouvoir en fonction du karma. Donc, Si on est très ouvert, très romain, très fier, tout ça va rebondir sur la classe dirigeante. Et c'est aussi lui qui donne le maître au chef religieux. Jupiter gouverne la politique, il gouverne la spiritualité, il gouverne le mysticisme. C'est le titan des cieux, Jupiter. La générosité est liée au Jupiter. La planète Jupiter est donc généreuse, paternelle, sublime, mystique. Le souverain de cette planète s'appelle Sachariel, c'est-à-dire le maître de ce monde gigantesque et le maître Sachariel. Jupiter régit sur les richesses, la propriété, affaires économiques, favorables ou défavorables, lois, droits des gens, indignités religieuses, juges, affaires qui doivent avoir avec les lois, etc. Et puis, on continuait avec Saturne, c'est-à-dire le vieil homme des siècles. Le vénérable Saturne vient dominer ce qui est mélancolique, ce qui correspond à la mort. Notez que Saturne est très intéressante, car elle ne réagit pas seulement les aspects qui viennent, par exemple, dans les barres d'autotol, dont nous avons parlé dans la conférence sur les régions de la mort. La mort est ce phénomène. Les barres d'autotol, le livre tibétain des morts, qui nous parle des processus post-mortem, c'est-à-dire après la mort physique, et celles-ci sont gouvernées par Saturne. Mais aussi, si l'on cite les livres égyptiens des morts ou le livre de la demeure cachée, ils constateront que ce qu'ils parlent là-bas concerne les morts psychologiques que Saturne gouverne également. C'est-à-dire que la mort du moi, du soi-même, le défaut de type psychologique, est liée à Saturne. Si quelqu'un veut être guidé dans la mort d'un moi, il peut demander au souverain de Saturne. Le souverain de Saturne est le maître Orifiel. Le maître Orifiel gouverne tous les anges de la mort, tout comme l'ange Gabriel gouverne tous les anges de la vie. Les anges de la vie sont gouvernés par Gabriel et les anges de la mort sont gouvernés par la vénérable maître Orifiel, qui est le souverain de Saturne. Elle peut nous aider dans de nombreuses choses liées à la mort de l'ego. Si quelqu'un en méditation l'appelle et demande des conseils, bien sûr, l'orientation peut nous venir en fonction de la dissolution de l'agrégat psychologique. Il règne aussi les questions de terre. Il règne aussi le karma en action. Il y a du karma qui est en attente, en pause. C'est comme la lettre que l'on signe. On nous prête de l'argent et on signe une lettre de mission. On ne va pas hier dans 20 ans. Ou on ne va pas hier dans 2 mois ou dans 4 semaines. Là, on signe la lettre, n'est-ce pas? On a vécu des dettes karmiques que nous ne devons pas hier. Mais le karma qui est en action, déjà, c'est drôle. Ce karma particulier, est dirigé par le maître horrifié. Et il a son influence. Alors, ça tourne à Rajit, l'environnement dans lesquels nous vivons, la vie pratique, le karma en action, les paix et la justice qui nous attendent depuis le ciel, les affaires des biens, racines, terres, maisons, propriétés, prisons, décès, bien sûr, etc. Comme nous pouvons l'observer, chers amis, l'univers est fait à la ressemblance de l'homme et l'homme est fait à la ressemblance de l'univers. Si vous apprenez à suivre l'ordre de l'univers dans votre vie, vous verrez comment tout au début s'améliore considérablement. Par exemple, beaucoup d'entre nous sont très vaniteux, fiers, péons, égocentriques, pardon, paons, égocentriques, autosuffisants, arrogants. Nous avons l'une de ces choses et nous, tous ensemble. Et puis, nous ne savons pas comment vivre comme des planètes, comme ce que nous avons mentionné en ce moment. Nous ne savons pas vivre parce que nous voulons corriger les parents, les hiérarchies qui existent. Il y a des hiérarchies dans le gouvernement, dans les domaines spirituels, dans la tombe. Alors, il doit y avoir une direction, un ordre. Et l'on ne veut pas y obéir. L'on veut aller au-delà. Et puis, les problèmes surviennent, les conflits, les discussions, bien. C'est parce que nous ne savons pas comment agir comme l'univers. Si nous devions imiter cet ordre dont nous avons parlé, la Lune autour de la Terre autour du Soleil, le Soleil autour d'un autre Soleil plus grand qui est Alcyone, Alcyone avec beaucoup d'autres milliers de constellations autour du Soleil Sirius, le Soleil Sirius comme centre de notre galaxie, avec d'autres galaxies autour du Soleil central qui est le centre de notre univers. Si quelqu'un apprenait à voir cela et l'appliquer dans la vie, l'appliquer à sa manière d'être, de vivre, de ressentir, cela changerait notre vie pour mieux. Eh bien, chers amis, toutes ces réflexions sont les sujets pour aujourd'hui. Nous avons parlé de l'univers, du Soleil et du Soleil Nensus. Nous allons recommander la conférence La vérité sur le Soleil. C'est une conférence qui est sur notre website, dans la section conférence. Et pour les étudiants avancés, comme bibliographie, il y a l'écolière du Bouddha et les traités ésotériques sur l'astrologie hermétique. Là, il y avait la bibliographie à étudier pour approfondir dans ce sujet si intéressant qui est l'univers. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. Ayez-vous un très bon week-end. À bientôt. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner, s'il vous plaît, comme toujours. Nous venons de dire, chers amis, qu'il y a des influences sur notre humanité.